Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV,
c'est vous qui représentez le système.
Hello. 9h40 sur France Inter, démarrage en trombe de Vincent M.
Ce qui s'est passé, les chéris.
Vous êtes en direct, allez-y.
Que nos enfants peuvent-ils apprendre de la Révolution française en jouant à Assassin's Creed? Et quelle vision auront-ils de la Seconde Guerre mondiale en plongeant dans Call of Duty? Les jeux vidéo constituent un support majeur de représentation de l'histoire avec un grand H. Simple décor, prétexte narratif ou nouvelle lecture du passé, le jeu vidéo est devenu un médium si puissant et si mondialisé qu'il nous faut non seulement interroger la crédibilité de ses représentations, mais aussi l'idéologie de ses récits. Mon invité n'ignore rien des stéréotypes historiques, du spectaculaire trompeur et des tentations propagandistes auxquelles peuvent céder les jeux vidéo. Il n'en demeure pas moins, à ses yeux, un pont formidable vers la connaissance.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Nota Bene, comme Bonjour. C'est bizarre d'appeler quelqu'un Nota Bene, c'est votre alias, c'est votre pseudo, sinon vous vous appelez Ben aussi. Nota Bene, c'est le nom de votre chaîne YouTube, plus de 600 000 abonnés, plus de 40 millions de vues, votre chaîne Histoire, massivement suivie. Donc, vous y racontez l'histoire de manière ludique et pointue à la fois, sans hésiter à piocher dans la pop culture, type Harry Potter ou Game of Thrones. Bref, je vous renvoie vers la chaîne Nota Bene. Et History's Creed, c'est pour ça qu'on vous invite ce matin, c'est à voir sur le site d'Arte, Arte Créative. C'est en 10 épisodes, c'est une petite série et c'est formidable. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Avec nous également ce matin, Romain Nigita. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Pour ces mardis en série, Romain qui va sortir ses muscles, attention, ça va luire. Et une petite info avant de commencer, sachez qu'il y a une nouvelle offre de podcast concoctée par nos amis de France Culture. Offre thématique, alors abordant au choix la vie des idées, la culture, l'actu couverte par la rédaction, comme vous voulez. Mais quand même, la trouvaille du siècle, très très drôle, très astucieuse, qui a bien fait rigoler toute l'équipe de l'Instant M, c'est France Culture Physique, une sélection de programmes à écouter pendant que vous faites du sport, en salle comme à l'extérieur, précisent nos confrères. Je vous le dis, moi, la fabrique de l'histoire, ça fait pile un jogging, hein, en écoutant Emmanuel Laurentin. Et les abdos fessiers avec Olivier Gesbert, dans les oreilles, il n'y a que ça de vrai. Alors, Romain, Arnold Schwarzenegger va avoir sa propre série sur Amazon. Ça méritait une chronique. Hein. Il a signé pour un western intitulé Outrider. Alors, le chêne autrichien, c'est le surnom d'Arnold, jouera un marshal du Far West. Attention, l'histoire d'Arnold Schwarzenegger à la télévision relève de la martyrologie. Ça n'est que des ratages en série, mais à chaque fois, il promet...
I'll be back.
I'll be back, je reviendrai en effet, puisqu'Arnold revient de loin après l'un des plus gros fiascos de l'histoire de la télévision. On est en avril 2011, il vient de quitter son poste de gouverneur de Californie après deux mandats. Le voici qui dévoile son projet.
I've had a great career, as you know, as a bodybuilder, as an actor, and as a politician. Now I'm going to be a private citizen once again. I won't be back.
J'ai eu une grande carrière en tant que culturiste, en tant qu'acteur, en tant qu'homme politique. Il est temps que je redevienne un simple citoyen, je ne reviendrai pas. C'est en fait la bande-annonce de The Governator, un projet de série animée pour enfants, écrite par Stan Lee, le vénérable co-créateur de Spider-Man. Le prestigieux magazine américain Entertainment Weekly en fait sa couverture. C'est du jamais vu pour ce qui n'est qu'un projet. Et quelques jours plus tard, Arnold fait le déplacement jusqu'au MIP de Cannes.
I'm back.
Je suis de retour, promet-il dans cette bande-annonce. Arnold est présent lors de ce marché international pour convaincre les chaînes du monde entier de préacheter sa série. Mais ça coince, la bande-annonce est archi-ringarde. Le Arnold version cartoon joue les super-héros avec une super-armure. Il a un QG caché derrière sa bibliothèque et il y a plein de gosses qui l'aident dans ses missions.
On vous colle la bande-annonce sur le site, hein, comme ça vous voyez le désastre. Donc personne n'investit dans ce projet pourri, même si le producteur tente de bluffer en annonçant des ventes dans tous les pays européens.
Il cite même le groupe TF1 pour la France, mais la chaîne dément l'information, on l'avait appelé à l'époque. Le projet sera définitivement annulé un mois plus tard, quand on découvre au scandale qu'Arnold a un fils caché, né d'une liaison avec l'une de ses employées de maison. Ça fait tâche pour celui qui se présente comme le nouveau héros des enfants.
Alors figurez-vous qu'Arnold avait déjà failli devenir un héros télé en 1977.
Après une apparition dans un épisode des rues de San Francisco, on lui propose d'incarner l'incroyable Hulk dans la fameuse série télé, mais Arnold refuse le rôle du monstre vert. Mais il est quand même sympa, il conseille au producteur d'embaucher l'un de ses potes culturistes, Lou Ferrigno.
La télé, c'est aussi Arnold Schwarzenegger, réalisateur, et ça ne s'est pas mieux passé.
En 1990, il réalise quand même pour HBO un épisode de la série horrifique Les Contes de la Crypte. Mm-hmm. Et deux ans plus tard, il met en scène un téléfilm de Noël, Christmas in Connecticut, pour lequel il dirige notamment Tony Curtis et Chris Christopherson. Mais c'est un nouvel échec et sa carrière de metteur en scène s'arrête là.
Hasta la vista, baby.
L'année dernière, enfin, il s'est mis à la télé-réalité, devenant l'animateur de The Celebrity Apprentice, l'émission qui a fait la gloire de Donald Trump pourtant.
Mais là aussi, c'est un gros bide. On n'a parlé que des passes d'armes entre Arnold et nouveau président par réseaux sociaux interposés. Bref, Arnold joue sa dernière carte avec Amazon, car ne l'oublions pas.
Je reviendrai. Ha ! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein ?
Mais si, tu dis toujours ça.
T'es sûr ?
C'est une réplique que tous les spectateurs attendent que tu places. C'est ta carte de visite.
Arnold Schwarzenegger et la télévision, une longue martyrologie à réécouter sur le site de franceinter.fr. Merci.
L'instant M, tous les médias sont sur France Inter.
Alors, History's Creed, c'est à voir sur le site d'Arte, Arte Créative, c'est en 10 petits épisodes, c'est formidable, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que c'est une vraie réflexion très articulée sur les questions que soulève la représentation de l'histoire, avec un grand H dans le jeu vidéo. C'est fabriqué avec toute une série d'extraits, évidemment, d'images, de sons, mais aussi d'interviews d'historiens et de concepteurs. C'est fait par vous, Ben, vous avez 29 ans, les jeux vidéo ont forgé votre culture historique. Vous commencez par les stéréotypes. Pourquoi les Vikings ont-ils toujours des casques à cornes ? Pourquoi finalement tous ces clichés qui sous-tendent la représentation historique ? Et finalement, vous le dites très très bien, ces clichés sont nourris par une histoire de l'histoire.
On est habitué à ces représentations d'un Moyen-Âge sombre qui est véhiculé par les stéréotypes qui ont même été construits par l'éducation nationale, par la Troisième République notamment, qui, à travers une propagande pro-républicaine, a déconstruit tout ce qui pouvait être représentation positive du Moyen-Âge.
Et finalement, ça vaut pour toutes les périodes de l'histoire avec un grand H, cette série de stéréotypes et de clichés. Ils ne sortent pas de n'importe où, Nota Bene.
Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Moi, depuis que je suis tout petit, je joue aux jeux vidéo. Depuis que je suis tout petit, je vois l'histoire qui m'est racontée. Et en grandissant, au fur et à mesure, je me suis dit, bon sang, en fait, y a
c'est tas de clichés. Vous avez maintenant les outils pour la déconstruire.
Exactement, j'ai les outils critiques pour déconstruire un petit peu tout ça. Et je me suis aperçu qu'effectivement c'était le cas pour toutes les périodes. Et la question qui est assez intéressante derrière tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise encore ces stéréotypes ? Et finalement, le jeu vidéo, c'est un média qui est relativement jeune, qui a acquéri la noblesse ces dernières années, et qui du coup se repose énormément sur la littérature, le cinéma, et qui sont des domaines artistiques où les clichés sont encore bien présents. Et du coup, finalement, le jeu vidéo n'est que l'héritier de cette tradition qu'il y a au cinéma, dans la littérature, etc. Donc c'est assez intéressant de voir pourquoi on les utilise. Eh bien, c'est pour finalement rassurer le public en lui disant, regardez, on utilise les codes que vous connaissez,
que vous avez connaissez, toujours connu. Puisque évidemment, c'est une industrie qui s'adresse à un public de plus en plus mondialisé. Donc finalement, il faut cette forme de simplification et des stéréotypifications pour donner des repères et des codes accessibles à tous.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y avait une grosse polémique il y a quelques années lors de la sortie du jeu Assassin's Creed Unity, qui parle de la Révolution française, où certains politiques, intellectuels étaient montés au créneau en disant,
Jean-Luc Mélenchon,
notamment, en disant oui, mais bon, le jeu réécrit totalement l'histoire, il donne une vision biaisée de l'histoire, etc. Ce qui est pas faux, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, pourquoi ces développeurs-là, à ce moment-là, ont fait le choix de modifier cette histoire et de prendre des partis pris en ayant des bons, des méchants d'un côté.
Alors, vous le racontez très bien, c'est-à-dire que finalement, il y a la poule et l'œuf, c'est-à-dire que les studios ont une idée préconçue de ce que veut le public, mais en même temps, ils imposent une représentation de l'histoire, donc ils façonnent finalement les attentes du public, donc c'est une forme de cercle sans fin, hein, où l'un nourrit l'autre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et puis, de la même manière que vous le racontez pour la Révolution française, il faut ces codes et il faut ces repères. Donc, il faut des drapeaux français, il faut de la Marseillaise. Donc, on est en pleine anachronie.
Oui, parce qu'à l'époque, ça n'existe pas. Mais la raison pour laquelle on décide de les mettre dans le jeu, c'est qu'on se dit, bon, une révolution sans Marseillaise, sans drapeau français...
Pour les Américains, pour les Chinois, finalement, ça ne veut rien dire.
Même pour nous. La plupart des Français, bon, voilà, la Marseillaise ne font peut-être pas tilt. Ils se disent peut-être pas spontanément, genre en jeu, ah oui, c'est mais pas la Marseillaise.
Alors, vous allez sur les traces d'un studio en République tchèque. Mm-hmm. Alors, eux, pour le coup, ce sont des militants de la rigueur historique, c'est vraiment leur créneau. Ils ont fabriqué un jeu qu'ils ont commencé par financer grâce à une collecte de fonds auprès des gamers. Ils ont une historienne à plein temps et même les combats armés sont reconstitués grâce à des documents du 15e siècle.
Oui, c'est assez intéressant. Ils se sont basés sur des traités de maîtres d'armes comme le Talhofer qui vient du 15e. Et ce qui est assez intéressant, ce qu'ils nous expliquaient là-bas, c'est que forcément, donc, ils mettent des capteurs sur des combattants pour enregistrer leurs mouvements et les retranscrire dans le jeu. Et ils ont donc capté des vrais maîtres d'armes. Mm-hmm. Et ils se sont dit à un moment donné, c'est bizarre dans le jeu. Voilà, tous les gars se battent comme des maîtres d'armes. Sauf qu'à l'époque, une grande partie des armées, c'était des péquenauds, hein, c'était des paysans.
Ouais.
Et du coup, ils ont aussi capté des gens qui savaient pas se battre finalement. Donc dans le jeu, on se retrouve confronté à des gars qui mettent
en scène l'imperfection finalement,
exactement,
ce qui est rare dans le jeu vidéo. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est issu d'un studio tchèque indépendant et pas d'une grosse machine américaine ou japonaise, c'est la première fois que ce pays, la République tchèque, voit sa propre histoire mise en scène à travers la pop culture.
Oui, tout à fait. Et c'était hyper important pour eux aussi. Je sais qu'une bonne partie de l'équipe est vraiment sensible à ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur la communication du jeu, en tout cas quand je les avais rencontrés il y a un an et demi sur les prémices de la série, c'est qu'ils me disaient, bon, bah, pour le public américain, on ne présente pas forcément comme un jeu sur l'histoire de la bohème du 15e, parce que ça ne va pas être vendeur. Pour eux, comme ils le disent, ouais, tout le monde se fout de l'histoire de l'Europe centrale. Mm-hmm. Par contre, voilà, si on dit c'est un jeu qui se passe dans l'Europe médiévale, tout de suite, on est un peu plus large, on ouvre et ça crée des connexions chez les joueurs américains, par exemple, qui seront peut-être plus fortes que si on leur pointait du doigt juste la bohème, quoi.
Alors, comment reconstituer justement le passé et sur quels critères c'est tout un débat chez les historiens, des débats entre historiens également. Vous avez interviewé un chercheur canadien qui travaille beaucoup à Toronto avec Ubisoft.
On travaille avec les traces du passé. On travaille pas sur le passé. On n'en a aucune idée de ce qui s'est passé derrière nous. Donc, on croise. L'histoire est faite de trous. Alors que le monde d'Assassin's Creed est plein. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut recréer? On le fait dans le style.
Pour ceux qui ne connaissent pas Nota Bene, vous nous dites ce que c'est qu'Assassin's Creed. Moi, mes enfants jouent avec.
Alors, Assassin's Creed, c'est une série qui a plus de 10 ans maintenant, dans laquelle on incarne donc un assassin qui va lutter contre les forces des Templiers. Donc, c'est vraiment, il y a une dichotomie dans le monde entre assassins et Templiers. C'est deux idéologies bien distinctes. Et c'est une série qui nous permet vraiment de voyager à travers le temps, puisqu'il y a eu des Assassin's Creed au début, durant les croisades. Il y en a eu durant l'époque des pirates, durant la Révolution française, durant la Révolution industrielle anglaise. Aujourd'hui, il y a quelques mois, est sorti Origins sur l'Antiquité égyptienne, où on va rencontrer César, Cléopâtre, Ptolémée. Donc c'est vraiment une série qui nous fait voyager un petit peu dans l'histoire.
Et c'est d'une immense beauté graphiquement, il faut le dire. Même quand on ne joue pas, et je peux dire que quand on s'approche de l'écran et qu'on voit ses enfants jouer, c'est absolument fascinant. Ce que je trouve très intéressant dans ce que vous explique l'historien qu'on vient d'entendre, c'est quand il dit « à la manière de ». Finalement, c'est quasiment du Viollet-le-Duc qui, au 19e, décide de construire à la manière de l'Antiquité, de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Et finalement, ça fait des machins à la fin qui ne ressemblent à rien, ni à l'architecture du 19e, ni à celle du Moyen-Âge.
Oui, on s'en approche quand même. Mais c'est vrai que ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de donner une idée, de créer une ambiance plus que d'être fidèle à 100%. Mm-hmm. C'est vraiment créer une ambiance pour permettre aux joueurs de s'approprier l'univers et potentiellement de s'y intéresser. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré les équipes d'Ubisoft à Montréal...
Qui assument parfaitement leur liberté.
Oui,
hein,
qui assument parfaitement leur liberté. Ouais. C'était assez rigolo parce qu'ils m'ont dit, voilà, quand on a annoncé Origins et l'Antiquité égyptienne, il y a eu un pic de consultation Wikipédia des articles liés à l'Égypte antique qui a été monstrueux. Donc il y avait un vrai intérêt chez les gens.
C'est ça. Et puis comme vous le dites, hein, au fur et à mesure de la série, c'est tout le temps un pont vers la connaissance, tout le temps une envie d'aller voir ce qui va s'y passer. Eux, ils parlent de tourisme historique, donc ils assument pleinement le fait de choisir toujours graphiquement, pardonnez-moi, ce qui va vers le toujours plus spectaculaire, plutôt que voilà. Et en même temps, vous pointez ce paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a un réalisme qui est de plus en plus plus affinés, au niveau visuel, de plus en plus précis. Et en même temps, c'est de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux face à cette hyper-réalité mise en scène dans les jeux vidéo, nota bene.
Mais bien évidemment, même dans le cas de Kingdom Come Deliverance, le fameux jeu tchèque qui se veut très rigoureux au niveau de l'histoire, eux aussi ont une direction artistique et eux aussi doivent faire des compromis malgré leur envie de pouvoir respecter entre guillemets l'histoire et d'être le plus fidèle possible.
Alors,
eux aussi prennent des libertés.
Chez Ubisoft, on assume cette forme de tourisme historique et en même temps, on reconnaît que, bah oui, forcément, on impose une certaine vision de l'histoire. Et là, c'est la fin, la dernière partie de votre série qui est absolument passionnante, notamment le 9e épisode sur la propagande. Pourquoi finalement est-ce que la Deuxième Guerre mondiale est la période favorite du jeu historique?
My name is Robert Hawkins.
What I'm about to tell you is a story. A story of ordinary men and women all across Europe who have stood up to Nazi tyranny and oppression.
C'est la meilleure guerre des États-Unis pour justement se montrer comme héros, comme libérateurs. C'est de celles dont on a le plus envie de se servir pour forger un imaginaire patriotique pour les gamins.
Les représentations du jeu vidéo ne sont pas dénuées d'idéologie, nota bene. Alors forcément, il y a des guerres qu'on a encore du mal à représenter dans le jeu vidéo. Et il y a des guerres auxquelles on revient sans cesse.
Oui, tout à fait. Ce que j'aborde dans la série, c'est effectivement que la Seconde Guerre mondiale, elle est surreprésentée. Alors peut-être aussi parce que c'est une guerre qui est beaucoup plus proche de nous. On a des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont participé. Donc il y a une phase d'identification là-dedans qui est quand même très très importante. Mais il y a des guerres qui sont encore tellement traumatiques pour nous, on a du mal à en parler, comme la guerre d'Algérie, qui sont pas adaptées. Ce matin sur Twitter, quelqu'un me disait « Ah, j'ai trouvé un jeu qui parle de la guerre d'Indochine, mais qui a été fait par des Vietnamiens. » Mais en France, il y en a
jamais. En même temps, les Américains sont retroussés les manches, et la guerre du Vietnam, elle existe dans le jeu vidéo.
Tout à fait, elle existe, mais je pense qu'elle est l'héritage aussi, encore une fois, du cinéma hollywoodien qui s'y est attaqué très tôt, finalement, avec des réalisateurs qui voulaient dénoncer cette guerre du Vietnam. Et pour le coup, c'est pareil, les films sur la guerre d'Algérie, il y en a eu qui ont dénoncé, mais ils ont été censurés. Enfin, je pense à René Vautier ou des choses comme ça. C'est des cinéastes qui ont été censurés pendant des dizaines d'années.
Et vous expliquerez très bien, finalement, comment le jeu vidéo s'inscrit dans une stratégie de soft power et comment, finalement, il révèle un discours dominant, notamment une mise en scène permanente de l'armée américaine, de la toute-puissance patriotique américaine.
Oui, c'est toujours les Américains les gentils, c'est toujours...
Racontez-nous Call of Duty.
Dans les Call of Duty, effectivement, on suit quasiment tout le temps des Américains. Il n'y a pas vraiment de remise en question de ces actions, finalement. On fait ça pour le bien, et même si dans peut-être un épisode de la série Call of Duty où il y a eu de nombreux jeux quand même, on se dit « Ah, bon, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment bien ?» Ça reste anecdotique, quoi. On est vraiment plus dans l'idéologie un peu guerrière quand même. Hein. On va conquérir et on fait ça pour le bien. À contraire d'autres jeux, il y a quelques jeux qui ont pris ce contre-pied-là, mais ça vient surtout de studios qui ne sont pas américains, ou de jeux indépendants. Et les jeux indépendants, c'est un vrai vivier de contre-pouvoir et puis de discours, on va dire, autre que celui qui est dominant.
Vous me montrez, il y a une vraie émergence de jeux avec un discours militant, de jeux avec un discours politique, réellement, où le soldat doute, pour le coup, où le douanier laisse passer des migrants, enfin, où en fait on est confronté à un monde réel et non pas idéalisé au nom de la patrie. Donc c'est extrêmement intéressant. En fait, la question qui revient tout le temps dans le jeu, c'est qui parle ? D'où vient le jeu ? Qui parle ?
Oui, bien évidemment. Et c'est sûr qu'on peut pas taxer tous les jeux de faire de la propagande idéologique.
Non.
Mais forcément, les créateurs ont une idéologie qui vont laisser transparaître à un moment donné, malgré eux peut-être. Donc il y a ça aussi. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que il y a ces milieux des grosses productions, il y a le milieu indépendant, et les deux échangent beaucoup. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des jeux. Alors, peut-être en sortant un peu du cadre historique, quoique, on a des jeux comme Far Cry, c'est une licence vraiment avec beaucoup de jeux, qui sont finalement très très critiques vis-à-vis de la pensée américaine, et c'est des jeux qui se vendent à des millions d'exemplaires, donc c'est assez encourageant.
Voilà, et ça se termine par un plaidoyer assez intéressant sur le jeu vidéo comme outil et support d'apprentissage, parce que vous continuez réellement, nota bene, de militer pour le jeu vidéo comme support d'apprentissage. Pour vous, c'est vraiment une fenêtre ouverte.
Ah, c'est une fenêtre. C'est pas la solution miracle. Non. Et c'est à ça qu'il faut faire attention, parce que souvent, quand on a tendance à présenter le jeu vidéo, qu'on se dit voilà, on a tendance à dire c'est un outil formidable et avec ça on va pouvoir apprendre. Il faut quand même mettre quelques réserves. Il faut pouvoir travailler autour du jeu vidéo et inciter les élèves à critiquer le jeu vidéo aussi pour avancer.
Merci beaucoup, Nota Bene. Votre chaîne YouTube et History Creed, c'est sur le site d'Arte Créative.
Merci.